sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts se penche aujourd'hui sur le bel art de la gravure. L'Académie des Beaux-Arts compte une section de gravure de 4 membres, Pierre-Yves Trémois, René Kijewijk, Louis-René Berge et Éric Desmazières. Chaque année, sur proposition des académiciens, 2 prix de gravure sont décernés. Il y a le prix de gravure fondé par la mécène et correspondante de l'Académie Nae Oche et le prix de gravure créé par l'académicien Pierre Cardin. Ces 2 prix annuels de gravure distinguent l'art de la gravure et œuvrent à sa diffusion auprès du public, visant aussi à encourager les jeunes artistes graveurs. La gravure est un art majeur né vers 1430 en Europe. Matrice formidable pour les artistes qui l'ont faite évoluer au fil des générations, par leurs inventions techniques et créatrices, elle est un moyen d'expression à part entière. Elle a connu des heures de gloire avec lesquelles les artistes d'aujourd'hui savent aussi renouer. Si elle a permis pendant des siècles de reproduire des images d'art jusqu'à l'apparition de la photographie, sans pourtant disparaître, elle n'en demeure pas moins un art qui joue, sans couleur, de l'ombre et de la lumière avec subtilité et originalité. C'est un art du trait et de lumière. Comment regarder la gravure? La gravure est tout sauf un art figé. Pour comprendre la gravure en mouvement du 15e au 21e siècle, j'accueille aujourd'hui à Canal Académie 2 personnalités habituées du monde des graveurs, l'académicien Louis-René Berge, membre de la section gravure de l'Académie des Beaux-Arts, artiste graveur, et Anne Guérin, historienne de l'art, auteure du catalogue raisonné des œuvres du graveur Roger Vieillard, mort en 1987 et qui fut aussi membre de l'Académie, et le maître en gravure de Louis-René Berge. Plutôt qu'une histoire de la gravure, je vous convie donc, chers auditeurs, à découvrir 2 regards croisés sur la gravure, un exercice auquel ils se sont prêtés tous les deux en organisant une exposition d'une 100aine de gravures qui réunit, pour le plaisir de l'œil, une 40aine d'artistes du 15e au 21e siècle. Un duo, mais 2 regards, 2 sélections qui rendent compte de la diversité et de la richesse de l'art de la gravure. L'événement est à voir au Centre d'art et des expositions de la ville de Hyères, qui n'est autre que la belle demeure du peintre Caillebotte en région parisienne. Et elle se déroule du 15 septembre au 2 décembre et fait l'objet d'un catalogue. Anne Guérin et Louis-René Berge, bonjour.
Bonjour. Bonjour madame.
Louis-René Berge, pour présenter 6 siècles de gravure européenne, vous n'avez pas souhaité un déroulé purement historique. Pour vous, la gravure est en mouvement. C'est le titre de l'exposition. Quel est le sens de cette exposition dont vous êtes avec Anne Guérin, les 2 commissaires?
Oui, mais c'est au fond d'abord de faire connaître la gravure et de créer ce lien entre la gravure ancienne et la gravure contemporaine. Il y a un lien évident. Il y a l'évolution des techniques. Et justement, dans les siècles passés, il y a eu de nombreuses améliorations de cette technique. Et actuellement, dans les graveurs contemporains, il y a aussi beaucoup de recherches techniques. Et le fait de la technique, c'est le fait de la création. Car en fait, une technique amène une certaine... C'est un moyen d'expression. Par exemple, quand on fait du burin, eh bien, on ne dit pas tout à fait la même chose que si on fait une eau forte ou une aquatinte. Donc, au fond, chaque artiste choisit un mode d'expression en fonction de ce qu'il a à dire. Et après, ce mode d'expression lui fait dire des choses auxquelles peut-être il ne s'attendait pas.
Est-ce que vous auriez un exemple de cette création inattendue, en fait, recherchée, mais qui jaillit comme ça et qu'après l'artiste va... dans lequel il va se plonger?
Non, je ne sais pas. Je sais simplement que les dessinateurs, il y a 2 groupes d'artistes, si vous voulez, en très gros, il y a les dessinateurs et les peintres. Bon, les dessinateurs utilisent plus le burin, la pointe sèche, enfin des... Et les peintres, plutôt l'aquatinte. En fait, c'est ça, il y a 2 familles. Et en fait, quand on est dessinateur, on a tendance à prendre un outil simple, comme le, c'est pas le crayon, mais c'est une pointe de burin. Et quand on est peintre, on va rechercher au contraire des teintes que donne l'aquatinte, c'est-à-dire des différentes valeurs dans la gravure.
Alors, dans ce grand et long panorama chronologique, Anne Guérin, comment vous avez, vous, pensé justement organiser votre sélection? Et pour vous, quel est le sens de cette exposition?
Alors, le sens de l'exposition, avec les œuvres choisies, c'est de poser en quelque sorte des jalons pour permettre aux visiteurs de suivre le mouvement de la gravure. Et évidemment, nous avons commencé à choisir des œuvres du XVe siècle, parce que comme vous l'avez dit lors de votre préambule, c'est la naissance de la gravure sur métal. Et nous avons choisi aussi, la gravure sur bois existait déjà, avant la gravure sur métal. Donc nous avons commencé par choisir des œuvres de Dürer, parce que dès 1497, avec l'Apocalypse de Saint Jean, Dürer élève la gravure au rang d'art graphique, de même que les œuvres de Mantegna. Donc d'emblée, la gravure va rentrer dans les arts graphiques.
Alors, parmi les noms, je vais en citer quelques-uns, oui. Parmi les noms des graveurs que vous exposez, dont des noms de grands peintres, bien entendu, hein. Mais on a Johann Andrea, Dürer, que vous venez d'évoquer, Marc Antonio Raimondi, Jean Duvet, Niccolò Vicentino, Jacques Callot, Claude Mélan, alors ce sont des très grands noms, Anton van Dyck, Claude, je l'ai dit, Le Lorrain, Rembrandt, Nanteuil, il y a même un Canaletto, Piranèse, Goya, Charles Méron, vous avez fait très large. Et le public a la chance de voir réunies ces gravures de différents formats, côte à côte, elles se répondent. Et on voit effectivement toutes les techniques, toute la richesse des techniques des graveurs. Il faut un peu de temps pour entrer dans tout ça. C'est un peu un art, non pas intimiste, mais il faut que l'œil s'habitue. Alors, comme ouverture, vous avez choisi... Vous nous conseilleriez de rentrer comment dans votre exposition? Et vous avez fait un choix d'ailleurs,
oui, j'ai
à l'étage.
Fait un choix. Alors j'ai choisi la délicate gravure au burin de Dürer, Saint Antoine lisant sur la colline.
Alors elle est peut-être un petit peu moins connue de nos auditeurs qui connaissent sûrement Mélanconia ou le
Justement,
Cavalier,
c'est
mais
c'est ce
celle-là...
qui a aussi motivé notre choix.
Voilà. Anne Dürer, expliquez-nous donc l'intérêt de cette magnifique gravure, Saint-Antoine lisant sur la colline, de Dürer.
Eh bien, Saint-Antoine sur la colline évoque le monde frémissant, ce monde des idées, et en même temps cette vie que l'on retrouve dans les gravures des maîtres de la Renaissance, et notamment chez Dürer. Alors, c'est une composition, une petite gravure, délicate. Saint-Antoine lisant sur la colline, c'est l'esquisse beauté des lignes du paysage, de la ville fortifiée qui s'étage jusqu'à un ciel sans nuages. Et c'est une composition qui est extrêmement singulière par sa modernité. La silhouette triangulaire de l'ermite, isolée dans sa lecture, dans sa méditation, épouse la silhouette de la ville. Il faudrait aussi s'attarder sur les lignes exquise des fortifications, de la ville, de la lumière.
Alors, à quoi reconnaît-on, disons, une gravure au burin, là? Parce que là, c'est une gravure de 1519, c'est une technique encore utilisée aujourd'hui.
N'oublions pas que Dürer était fils d'orfèvre et orfèvre. Donc, on reconnaît le trait du burin à la fois par sa précision, sa sobriété... Et il permet une très très grande finesse des lignes et des matières.
Vous avez dit qu'elle avait beaucoup de modernité, cette gravure. Qu'est-ce que vous appelez la modernité de la gravure de Dürer de 1519?
La modernité, c'est la composition elle-même de cette petite et délicate gravure. Mais c'est aussi l'écriture, c'est transmuer l'idée dans la matière. Et nous pouvons constater que la silhouette de Saint-Antoine est disproportionnée par rapport à la silhouette de la ville et nous entrons dans la méditation spirituelle, dans la dimension spirituelle de l'ermite.
Louis-René Berge, quelle est la modernité de la gravure contemporaine?
C'est l'invention d'un certain nombre de techniques depuis les années juste avant la guerre, avec justement des gens comme Ether, Vieillard et d'autres, qui ont repris la gravure et qui ont fait des recherches et donné une expression tout à fait nouvelle à cet art, et qui était, il faut bien dire, un petit peu endormi, en tout cas très classique, à part la gravure sur bois en Allemagne, qui a été une grande période de la gravure. Mais en France, c'est cette école qui a réveillé Ether, et qui était un chimiste d'ailleurs, un anglais, que j'ai même connu tout à fait à la fin de sa vie. Et cet atelier qui s'appelle l'atelier 17, qui existe je crois encore, et qui a été, dont le dernier directeur a été Georges Ball, qui est exposé ici, qui est un buriniste.
À l'exposition de hier.
C'est ça.
Qui s'intitule La gravure en mouvement, 15e, 21e siècle. Et donc John Ball, par ses inventions.
John Ball, oui, a une écriture très inventive, très riche. Il y a un vocabulaire très riche, exactement comme Roger Vieillard, qui a été le premier à vraiment transgresser, je dirais, la manière dont on gravait avant, du point de vue du burin, j'entends.
On vient de voir que pour le XXe siècle, les avant-gardes avaient joué un grand rôle, en fait. Là, vous venez d'évoquer l'atelier 17, mais qu'il y a eu un renouveau de la gravure, et que les plus grands artistes du XXe siècle se sont emparés de ce procédé de la gravure. Anne Guérin, dans la gravure ancienne, vous avez fait venir des estampes de plusieurs collections. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de déplacer un Rembrandt, un Goya? D'où viennent toutes ces petites gravures, plus ou moins grandes? Il y a un Piranèse. Comment s'est établi le travail pour le prêt, l'origine des collections?
D'abord, il y a un travail de choix, de sélection des gravures. D'abord, nous avons présenté un premier choix à la Bibliothèque nationale de France, qui a consenti à nous prêter bon nombre de gravures, dont le Saint-Antoine disant sur la colline, Raymond Dit,
l'École des Beaux-Arts aussi.
L'École des Beaux-Arts de Paris, et le musée de l'estampe originale, du dessin et de l'estampe originale de Gravelines.
Vous pourriez dire deux mots de ce musée?
Alors c'est un musée qui est très intéressant, parce que je crois que c'est pratiquement le seul musée en France qui se consacre totalement à la gravure, et notamment à la gravure contemporaine. Mais il y a aussi, bien sûr, des gravures anciennes, puisque c'est la plupart des techniques, que ce soit la gravure sur bois, la gravure au burin, l'eau forte, l'aquatinte et puis la manière noire ont été inventées entre le 15e et le 17e siècle. Et au fil des siècles, elles se sont développées, enrichies. Donc c'est essentiel aussi qu'il y ait à Gravelines un fonds de gravures anciennes. Donc nous avons emprunté à Gravelines le Durer, l'Apocalypse Saint-Jean, donc qui est une gravure sur bois. Nous avons également emprunté des œuvres au musée des Beaux-Arts de Caen. Il y a des œuvres de Johann Jacobé, donc c'est la technique de la manière noire. Et la manière noire n'a pas eu un très très grand succès en France.
Alors d'abord, avant de rentrer dans cette gravure-là, est-ce que vous pourriez expliquer pour nos auditeurs ce que c'est que la manière noire?
Alors ça, je laisserai très volontiers ce rôle au graveur.
À Louis-René Berge.
Louis-René Berge qui connaît très bien cette technique.
Non, je ne la connais pas très bien. Je sais simplement que c'est l'utilisation d'une plaque de cuivre. Cette plaque de cuivre est percée par l'intermédiaire d'un outil qu'on appelle le berceau, qui ressemble à un tampon d'autrefois pour sécher l'encre, qui est hérissé de petites pointes. Et en berçant la plaque, on fait des petits trous partout et on hérisse le cuivre. Enfin. Et ensuite, on prend un brunissoir, qui est une espèce de cuillère, et on couche ces pointes. Et quand on les couche, on arrive à faire ou des gris ou des blancs. Voilà.
Il y a
assez peu de gens qui font de la manière noire.
Et cette technique évoquée par Anne Guérin, dans les gravures anciennes, on la retrouve aussi au XXe siècle.
Oui, on la retrouve. Il y a peu de gens qui font de la manière noire. Il y en a, mais c'est assez peu répandu.
Est-ce que c'est particulièrement difficile?
C'est comme tout.
Non.
C'est pas oui, tout est difficile. Et quand on sait le faire, ça devient facile.
D'accord. La particularité de la manière noire, c'est un effet de la lumière qui provient de... Vous pourriez en parler de cet
effet particulier? C'est la lumière qui naît des noirs.
Voilà. C'est là.
La lumière naît du noir, elle surgit du noir.
D'accord.
Puisque, comme l'expliquait Louis René, la planche est noire.
Ouais.
Et après, il y a tout un travail pour extraire cette lumière des noirs.
Alors, donne quelque chose d'un peu velouté en apparence.
Oui, c'est velouté,
très doux,
très nuancé.
Peut-être on pourrait parler de la gravure de Roger Vieillard, justement.
Alors oui,
parce que là,
elle
a une composition très très intéressante.
Peut-être qu'Anne la connaît parfaitement.
Et oui, Anne.
C'est surtout Guérin. Elle qui doit en parler. Moi, je peux en parler en tant que graveur et qui m'a beaucoup impressionné. Je l'ai interviewé un an, je crois, avant sa mort, avant qu'il ne rentre à l'Académie. J'ai même fait un petit article et c'était quelqu'un d'assez impressionnant. D'abord, un homme très raffiné. Sa caractéristique, c'était son, pour moi en tout cas, c'est un homme cultivé et raffiné. Maintenant, Anne.
Oui, pourriez revenir sur ces compositions très originales de Roger Vieillard.
Eh bien, Roger Vieillard a apporté un prolongement extrêmement audacieux à l'art du Burin, des maîtres de la Renaissance, qui étaient dans son panthéon, Lantegna, Dürer particulièrement. Alors, dont il a créé un vocabulaire extrêmement riche et notamment un langage de forme. Il n'a pas hésité aussi à travailler sur la matière même du cuivre, en détourant le cuivre, en perçant le cuivre parfois, pour laisser affleurer le blanc pur du papier, qui joue en quelque sorte le rôle de la taille.
Alors c'est très intéressant, parce que du coup on
Nous
voit des gravures
des reliefs,
en relief.
Voilà, je voulais venir.
Voilà, en relief avec des parties blanches, mais qui sont
des
le papier.
Des parties extrêmement blanches, donc il perce le cuivre, et parfois il enlève carrément une partie du cuivre, pour ce qui fait des surfaces extrêmement importantes de relief avec le blanc pur, lumineux du papier.
Il a été aussi bien... abstrait, si on peut mettre des étiquettes pareilles.
Oui, non, il n'avait pas de... Enfin, c'était le grand débat
d'après-guerre,
figuratif, abstrait. Tout cela était caduque pour lui. C'était vraiment approprier un langage à ce qu'il voulait transmettre.
Parmi la grande diversité d'expressions des graveurs contemporains, est-ce que vous pourrez rentrer avec vous dans la gravure d'un des artistes graveurs les plus représentatifs quand même de cet art aujourd'hui, qui est Éric Desmazières? C'est un de vos confrères, membre de l'Académie. Présentez-nous Éric Desmazières.
Oui, alors Éric Desmazières est un très grand dessinateur en fait. C'est un homme qui a commencé par faire des études supérieures et Sciences Po. Et puis le jour où il a eu son diplôme, pof, il a tout arrêté et il s'est mis, il a dessiné et ensuite gravé. Alors sa gravure, c'est de l'eau forte. Et c'est-à-dire qu'au fond, il dessine sur une planche, il y a une planche en cuivre, ensuite il y a un vernis et il dessine sur ce vernis. Et il plonge après cette plaque dans un bain de perchlorure de fer,
d'acide.
Et ce qui fait que selon le temps du bain, ça creuse plus ou moins. Bon, donc ça c'est un premier. Ensuite, il sert de la roulette. Il sert d'une roulette. C'est assez rare. Il y a peu de gens qui servent la roulette. C'est un outil qui est assez difficile. C'est assez difficile de s'en servir. La roulette. Il y a eu au XVIIIe siècle des graveurs qui se sont servis de la roulette, qu'on appelait la manière crayon, je crois, la manière crayon. J'ai dit tout à l'heure que c'était un très grand dessinateur, c'est un très grand observateur. Et j'ai une petite formule qui est, au fond, il met de l'ordre dans le désordre. Et ça, c'est, il faut avoir un œil tout à fait précis, enfin, voilà. Et il a un monde à lui, un peu fantastique, mais surtout, il est très réaliste, en fait. Il a fait toute une série à la Bibliothèque nationale sur la bibliothèque, qui est une énorme gravure en couleur, magnifique. On lui demande en ce moment, la BN lui demande une exposition justement sur ce sujet.
Alors l'œuvre exposée de lui s'appelle « Le magasin de Robert Capia », oui. Mais qui est assez représentatif justement de son univers, des univers clos, extrêmement chargés en détails, où l'œil se perd, on peut se perdre et se promener dans tous ces détails, dans toute cette accumulation. Comment vous définiriez son style ?
Bon, son style est relativement classique. Il est très figuratif, on ne peut pas plus figuratif. Il est classique et en même temps, il dit des choses que les autres n'ont pas dit. Bien que classique, il dit d'autres choses. Et c'est ça qui est important.
Et c'est un œil presque photographique ?
Oui, c'est un œil presque photographique, extrêmement, c'est un œil de lynx.
Comme artiste graveur, on va dire, opposé ou très différent de cette gravure-là, qui pourriez-vous citer parmi la vingtaine des graveurs contemporains que vous avez choisis ?
Il y en a plusieurs. Il y a la Benjamin,
oui,
qui est Catherine Gillet, qui fait une gravure au burin.
Oui.
Elle utilise le burin d'une manière très personnelle, car il faut regarder de près ses gravures pour voir que c'est du burin. Et puis surtout, elle a un monde très particulier. Elle a des mises en page avec des blancs. Ça fait rêver.
Parmi les graveurs très connus et reconnus du public, citons aussi Philippe Molitz, Louis-René Berge. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'œuvre de cet artiste ?
Philippe Molitz est un homme qui a maintenant 70, 75 ans, qui est très connu, qui est quelqu'un qui a une imagination tout à fait féconde, enfin, qui est grande imagination, qui est très figurative, bien sûr, qui raconte des histoires, qui accumule, c'est un accumulateur. Et le deuxième dont j'aimerais parler, c'est Jacques Muron.
Il est né en 1950.
Oui, il est beaucoup plus jeune. Et c'est un graveur extrêmement attentif, extrêmement précis, qui arrive à rendre avec le burin presque une impression photographique. C'est quelqu'un de très minutieux, qui a le sens de l'espace. Et alors, ces deux-là, j'en profite pour dire que nous avons donné le grand prix de la gravure, Nail Auger, à ces deux-là, entre autres.
À Jacques Muron.
À Jacques
donc
Muron,
qui est, qui est à la frontière d'un art très minimaliste, hein,
très minimaliste,
léger,
oui,
etc.
Oui.
Et à Philippe Molitz,
qui est
un buriniste, hein, qui
oui.
utilise, qui a beaucoup
d'humour. Qui a une virtuosité au burin tout à fait exceptionnelle.
Et là, vous présentez le déjeuner interrompu.
Oui.
Qui est un clin d'œil.
C'était le choix, oui.
qui a choisi cette gravure qui est pleine d'humour, en fait.
Anne Guérin, parlez-nous de cet humour que vous avez voulu montrer au public.
Eh bien, écoutez, sur une piste d'atterrissage avec beaucoup d'humour, Philippe Molitz a installé, en quelque sorte, le déjeuner sur l'herbe de Manet.
Anne Guérin, quel est votre coup de cœur ? Déjà, dans la réunion de tous ces artistes, quelle gravure vous fait rêver ? Toutes, vous allez me dire, bien sûr. Vous avez toutes choisies, ça a déjà été très difficile pour vous de choisir.
Bien, la gravure qui me fait rêver, très curieusement, c'est aussi les gravures de Catherine Gillet.
Ah oui ?
Parce qu'elle a un univers très particulier qui est celui du temps, qui délite les choses imperceptiblement. Et elle le rend d'une façon très particulière avec un burin tremblé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une seule ligne dans son burin. Et lorsque nous regardons avec attention, on voit ce burin trembler qui, justement, délite en quelque sorte les choses. Elle a une gravure que j'aime particulièrement qui s'appelle « Prélude à l'oubli », qui est vraiment très émouvante.
Qui est très poétique.
Très poétique, il y a de la poésie.
Elle parle.
Il y a en même temps de l'émotion, vraiment de l'émotion, parce que c'est un travail vraiment sur le temps en même temps. Donc on voit ces tailles trembler qui descendent sur un univers blanc, comme l'expliquait. Elle a vraiment une très belle notion de l'espace aussi dans la gravure. Mais il y en a d'autres, hein. Je pense ici parce que Louis-René l'a évoqué et que j'ai une sensibilité particulière pour son œuvre, mais... Par exemple, nous pourrions parler de Garache, que Louis-René m'a fait connaître, parce que je le connaissais en tant que peintre. mais pas en tant que graveur. Il arrive à rendre, par sa technique, par sa sensibilité, il arrive vraiment à donner l'impression que nous avons là une œuvre peinte et non une œuvre gravée, avec un seul sujet qui est le corps. C'est aussi son sujet dans la peinture, et dans la peinture, ce corps, il utilise toujours le rouge. Mais dans la gravure, nous avons présenté 3 ou 4 gravures où il utilise également le noir, et une gravure où il utilise le rouge. Et sur un plan technique, c'est absolument remarquable, mais c'est aussi l'émotion originelle de la vie des corps.
Alors on voit que toutes ces œuvres exposées sont les témoins de la transmission, d'une transmission des maîtres depuis la Renaissance, on va dire, jusqu'aux artistes d'aujourd'hui. Est-ce que les très jeunes graveurs sont venus jusqu'à vous? Est-ce qu'il y a des graveurs de 20 ans ou de 30 ans que vous connaîtriez?
Pas dans le catalogue, là.
Non, mais est-ce que vous connaissez ce monde des jeunes graveurs?
Parce que nous donnons des prix à l'Académie.
Oui.
Et je suis allé plusieurs fois aux Beaux-Arts.
Oui.
Voir l'atelier de gravure, et j'ai été très étonné, c'est qu'il y a de très bons graveurs, entre 25 et 30 ans, qui font des gravures admirables, et avec notre section, spécialement Eric et moi, nous sommes tous les deux...
Eric Desmazières.
Et nous avons choisi des jeunes qui font une gravure totalement nouvelle.
Et qui la renouvellent.
Ils font des grands formats, et... qui sont très différents de ce que nous faisions avant, ce que faisons les gravures de mon âge, en fait.
De votre génération.
De ma génération.
Juste d'après-guerre.
Voilà.
Alors ça démontre que la gravure est toujours en mouvement, d'où le joli titre que vous aviez trouvé pour votre exposition, La gravure en mouvement du 15e au 21e siècle. C'est une exposition, c'est un fait. C'est le titre d'un catalogue, et je pense que, ou j'espère que ce sera une exposition renouvelée avec d'autres choix dans les années qui viennent, avec votre regard croisé, qui est très percutant pour le visiteur et bien agréable pour se perdre, à la fois pour rêver. C'est un, de toute façon, la gravure réclame du temps pour l'apprécier aussi. On prend son temps. C'est une lecture. C'est exactement ça. Merci à vous deux. Avant de quitter les maîtres de la gravure ancienne dont on peut apprécier les œuvres au Centre d'art et des expositions de hier à la Ferme Ornée, citons quelques-uns quand même des artistes du XXe et du XXIe siècle qui sont également exposés pour vous donner envie de voir ces œuvres qui sont d'une exceptionnelle qualité et qui sont réunies pour ce magnifique panorama. Citons Jacques Villon, Jean-Émile Laboureur, Pablo Picasso qui adorait la gravure, Joseph Hecht, Stanley William Ether, Henri-Georges Adam, Mario Avati pour La Lumière Noire, Pierre Courtin, Jean-Marie Granier pour son langage des signes dans la nature, mais aussi Arthur Pizza, Georges Bon, on ne peut pas tous les énumérer. Il y a aussi Gene Lodge, Yves Doiret, André Bongibaud, qui mêle plusieurs techniques sur une même gravure, et puis Jacques Muron, dont la légèreté du trait évoque la légèreté de la plume. Nous n'avons pas eu le temps de tous les évoquer, mais ils témoignent chacun d'une identité forte, sachant inventer et renouveler l'art de la gravure. Commissaire de l'exposition de hier, par élégance, Louis-René Berge n'y présente pas d'exemple de son œuvre gravée. Comme l'explique le numéro 52 de la lettre de l'Académie consultable gratuitement sur le site internet de l'Académie des Beaux-Arts, dans ce numéro 52 entièrement consacré à la gravure, quelques précisions peuvent vous être utiles. La notion d'originalité n'était pas chez les anciens graveurs une priorité, tout au plus gravaient-ils leurs initiales sur leurs planches, c'est-à-dire sur leur cuivre. Une fois le travail terminé, celle-ci était réimprimée au fur et à mesure de la demande et les éditeurs achetaient à leurs héritiers les plaques pour effectuer de nombreux tirages. À partir du XIXe siècle, les artistes, pour se démarquer des techniques photomécaniques, commencèrent dans un premier temps à signer leur épreuve au crayon pour authentifier leur travail, puis peu à peu, pour mieux les sécuriser, numérotèrent chaque épreuve. C'est ainsi qu'en bas de l'épreuve apparaissent 2 chiffres. Par exemple, 1 sur 30 signifie qu'il s'agit de la première épreuve sur un tirage total de 30 épreuves. C'est une pratique maintenant universelle et qui constitue une véritable garantie pour l'acheteur. Et il faut bien comprendre que chacune de ces 30 épreuves est en soi une gravure originale. Il y a aussi des épreuves réservées à l'artiste et en plus du tirage numéroté, il existe aussi quelques exemplaires hors commerce qui sont identifiés de la façon suivante, HC. Certains artistes en cours de travail ont besoin de contrôler l'état d'avancement de leur travail, de s'assurer de la profondeur d'un trait ou de l'intensité d'une couleur et ils procèdent donc en cours de route à des tirages que l'on nomme épreuves d'état. Celles-ci sont souvent recherchées par les collectionneurs. À côté de la gravure originale, il existe aussi la gravure de reproduction, qui reproduit avec une grande précision l'œuvre d'un autre artiste. Et à côté de la gravure originale et de la gravure de reproduction, citons une troisième catégorie, pour terminer, la gravure d'interprétation, qui est réalisée par un graveur, s'inspirant généralement du travail d'un peintre ou d'un dessinateur. Voilà quelques précisions utiles à qui voudrait s'intéresser davantage à la gravure. En ce début d'automne, la gravure est à l'honneur dans l'actualité des académiciens. L'œuvre de l'artiste-graveur Éric Desmazières, évoquée dans l'interview que vous venez d'entendre, est sur le devant de la scène à Londres et à Paris pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Du 3 au 26 octobre, il présente une exposition à la galerie Colnaghi à Londres, intitulée « Cabinet of Rarities, Prints and Drawing by Éric Desmazières » et à cette occasion, paraît un ouvrage en anglais qui reprend exactement ce titre de Patrick Moriès chez Thames et Hudson Éditions. L'ouvrage fait l'objet d'une édition française chez les éditions du Regard sous le titre Éric Desmazières, le miroir des vanités. Enfin, du 9 octobre au 18 novembre, c'est la bibliothèque François Mitterrand, la BNF, qui présente l'exposition Éric Desmazières au cœur de la bibliothèque. C'est dans la galerie des donateurs sur le site Tolbiac de la BNF. À cette occasion également paraîtra l'ouvrage Éric Desmazières, Voyage au centre de la bibliothèque, coécrit avec l'écrivain Olivier Rollin et coédité par la Bibliothèque nationale de France et les éditions Azan. Le thème des bibliothèques est un thème favori de l'artiste. Dessinateur hors pair, il s'est formé à l'art de la gravure auprès de Jean Delpech et de Philippe Molitz. À partir de 1980, des sujets fantastiques, des visions oniriques d'architecture complexe alternent dans son œuvre gravée avec des vues réalistes de lieux qui lui sont particulièrement familiers, comme l'atelier de l'imprimeur René Tazé, ou bien des rues ou des passages couverts de Paris, ou plus récemment, le magasin de Robert Capia. Sa virtuosité technique et l'originalité de ses thèmes lui ont apporté une reconnaissance quasi immédiate du monde de la gravure et des collectionneurs. Son imagination est hantée par les villes, les objets et lieux du savoir, livres, grimoires, bibliothèques, cabinets d'histoire naturelle et ateliers de graveurs. Son ouvrage « Apparaître » donc Éric Desmazières voyage au centre de la bibliothèque présente tout ce travail qu'il a effectué sur le thème des bibliothèques, qu'elles soient imaginaires comme celles que lui a inspiré le texte de Borges ou réelles, attirées par des architectures particulières. Ayant enseigné à l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville, attiré par les architectures donc, Éric Desmazières ne pouvait qu'être fasciné par la Bibliothèque nationale conçue par Henri Labrouste, d'ailleurs membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section architecture au XIXe siècle. Éric Desmazières a donc commencé par s'intéresser à la grande salle de lecture de la BNF, connue de plusieurs générations de lecteurs. Il l'a dessinée à de nombreuses reprises, avant de passer à la réalisation d'une série de gravures sur ce thème en 2001. Puis il est revenu sur les lieux, après le déménagement des imprimés, en direction du site de la bibliothèque François Mitterrand. L'ouvrage qui sera donc présenté et coécrit avec Olivier Rollin retrace ce cheminement en présentant non seulement les gravures, mais également les croquis de l'artiste pris sur le vif et consignés dans son carnet d'esquisses, ainsi que les états de ses gravures et des dessins sur un de ses thèmes favoris. Le célèbre peintre Zhao Wuqi, né en 1920, est membre de l'Académie des Beaux-Arts et comme chacun sait, il est l'un des plus illustres représentants de l'abstraction lyrique, ami de Soulages, de Sam Francis, de Riopelle, d'Artung, de Giacometti ou encore de Vera da Silva. Il a réalisé de nombreuses estampes et des aquarelles et du 14 octobre 2012 au 26 mai 2013, le musée des Beaux-Arts de Rouen exposera autour du triptyque « Hommage à Claude Monet » de 1991 une série d'aquarelles récentes inédites de Zhao Wuqi. Le triptyque « Hommage à Claude Monet » de 1991 est une grande toile, une toile magnifique de 2 mètres de haut sur 4,86 mètres de long, appartenant à un collectionneur. Et à cette occasion, justement, les éditions Albin Michel publient un livre « Zhao Wuqi dans l'ultime bonheur de peindre 2000-2010 » consacré à ses œuvres les plus récentes et inédites et qui seront présentées au Musée des Beaux-Arts de Rouen, puis au Centre culturel de Chine à Paris de janvier à mars 2013 et au Musée des Beaux-Arts d'Orléans d'octobre 2013 à janvier 2014. Deux sculpteurs de l'Académie des Beaux-Arts, Claude Abeille et Antoine Poncé, participent à l'exposition collective intitulée « Un monde à l'autre, artistes chinois et européens » présentée par France Fine Art. Le but de France Fine Art est d'exposer les artistes contemporains qui représentent notre époque. Mais comme il est impossible de dévoiler une époque par un seul artiste ou un seul regard ou un seul genre d'expression, Franz Fine Art a choisi dans un même espace de regrouper plusieurs formes d'expression, peinture, sculpture, photographie, vidéo. C'est cette mixité qui fait notre époque à leurs yeux. L'exposition a pour dessein de présenter les différentes tendances et évolutions de nos sociétés dans les grands salons d'exposition de la mairie du 13e arrondissement. Enfin, du côté de la photographie, l'Académie des Beaux-Arts présente le beau travail de la lauréate du prix de photographie 2011, Françoise Huguier, du 25 octobre au 25 novembre 2012, au pavillon Comtesse de Caen à l'Institut de France à Paris. Françoise Huguier y présente les résultats de son travail, intitulé « Vertical, horizontal, intérieur, extérieur, Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok, les classes moyennes en Asie du Sud-Est à l'aube du 21e siècle ». C'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre du mois de la photo à Paris et vous pouvez retrouver Françoise Huguier dans une interview et une émission qui lui est entièrement consacrée sur ce beau travail de photographie présenté par l'Académie des Beaux-Arts. Sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous le mois prochain et vous invite à célébrer le peintre Canaletto, particulièrement à l'honneur dans l'actualité des arts à Paris en cet automne 2012. Et si le sujet vous intéresse, retrouvez le conservateur Nicolas Sainte-Fargarneau qui est venu présenter à Canal Académie Canaletto Guardi, les deux maîtres de Venise.